Monsieur le ministre Léopold Mbonga Fatane, bonjour.
Bonjour.
Bangui, la capitale centrafricaine, a accueilli le premier salon international des mines, des carrières et du pétrole. Pourquoi le choix de la RCA pour abriter ce rendez-vous qui ne se tient jusque-là qu'en Afrique de l'Ouest?
Je vous remercie pour cette question. Nous avons voulu faire une première en République centrafricaine pour nous permettre de pouvoir voir aux yeux du monde que la République centrafricaine regorge d'énormes potentialités.
Quelles sont ces potentialités?
Premièrement, nous avons, comme vous le savez déjà, que nous exploitons dans le passé que le diamant et l'or. Aujourd'hui, nous avons voulu mettre en relief d'autres substances que nous avons, comme le pétrole, qui commence déjà à être recherché dans le nord du pays et dans l'ouest. Nous avons une réserve importante d'uranium, le fer, le cuivre et plein d'autres de cela.
Alors, la République centrafricaine a toujours vanté ses potentialités en diamants et or. Quelles en sont réellement les retombées dans l'économie nationale, vu que ce pays est toujours compté parmi les plus pauvres, non seulement en Afrique, mais dans le monde?
Dans le passé, vous savez, la République africaine a été comptée parmi les pays qui exploitaient le diamant, qui faisaient une grande production de diamant de l'ordre en moyenne de 450 000 carats par an et qui rapportaient beaucoup pour l'économie jusqu'en 2012 où la crise s'est installée. Et aujourd'hui, nous avons fait la reprise depuis 2016 puisque nous subissons aujourd'hui les sanctions du processus de Kimberley. Et progressivement, nous sommes en train de pouvoir monter pour espérer atteindre peut-être le record d'antan de 2012.
Justement, parlons du processus de Kimberley. La RCA est toujours sous sanction. Comment exploiter et commercialiser les produits miniers dans ces conditions?
C'est vrai, c'est que c'est assez difficile pour nous parce qu'il y a un cadre opérationnel que nous suivons. Et ce cadre opérationnel, aujourd'hui, nous donne seulement quelques régions dans lesquelles nous pouvons exploiter notre diamant et les exporter, pas exploiter, mais exporter le diamant. Donc, si nous parlons de cinq régions seulement dans l'est du pays, vous comprenez que tout l'est du pays aujourd'hui, où on n'exporte pas du diamant, on ne l'exporte pas de manière légale, échappe au contrôle de l'État.
Mais sur cette question précise, les groupes armés continuent de contrôler une bonne partie des zones minières du pays. Comment comptez-vous convaincre les investisseurs à ne pas voir cela comme un blocage?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des avancées, surtout dans l'accord de paix que nous avons signé. Je l'ai dit par exemple par rapport à Bambari aujourd'hui, où l'État est en train de s'imposer là-bas. Progressivement, nous allons aller vers Bria et vers Zako, où il y a la plus grande production dans le passé du diamant.
Mais que fait l'État pour combattre la contrebande dans les chantiers miniers?
Et voilà, ça c'est une grande question. Nous avons aujourd'hui avec, par exemple, je prends le cas du Cameroun, qui est notre voisin le plus proche, et dont on dit que la plupart de nos ressources partent par là. Nous avons, avec le ministre du Cameroun, mis en place une plateforme pour le combattre, donc tout ce qui est aujourd'hui la fraude minière pour le Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes aujourd'hui dans le cycle du Grand Lac. Nous sommes en train de prendre des mesures aussi pour qu'il y ait une participation régionale pour la lutte contre la fraude minière. Vous savez, le diamant aujourd'hui centrafricain, même s'il est vendu à l'heure, on le reconnaît pour sa qualité. Et nous sommes en train de plaider aujourd'hui pour que tous les diamants qui se retrouvent sur les marchés et qui sont frauduleux doivent être retournés aujourd'hui en République africaine.
Monsieur le ministre, l'exploitation de l'uranium de Ndashima a été suspendue. Quelle est la situation réelle de ce gisement qui fondait l'espoir des Centrafricains dans un passé récent?
Là, aujourd'hui, l'État est en train de se pencher réellement à l'exploitation de cette mine, et nous sommes en train de rechercher s'il y a d'autres possibilités, parce que Ndashima, il faut le dire, c'est une grande mine, c'est une grosse mine qui aujourd'hui est très convoitée à travers le monde.
Parlons justement d'autres investisseurs qui sont en ce moment les principaux partenaires de ce pays en matière minière.
Bon, pour le moment, nous ne sommes pas encore passés à une étape d'exploitation industrielle. Ça veut dire que la plupart de nos, comment je vais dire, des partenaires que nous avons sont encore dans la recherche, surtout les sociétés chinoises qui sont là, qui ont des permis de recherche, et une société sud-africaine dans l'ouest du pays, d'Igoil, dans la région de Nola Karoun.
Mais ces derniers temps, il a beaucoup été question des sociétés russes aussi. Est-ce qu'elles sont présentes ou non dans ce secteur?
Bien, au fait, ça c'est vrai, on en parle beaucoup, mais nous ne nous cachons pas, c'est que la République africaine est ouverte aujourd'hui à tous les pays. Effectivement, les sociétés russes ont le droit aussi de postuler. Nous reconnaissons aujourd'hui que nous avons passé l'autre dossier à l'Assemblée nationale où il y a une société russe, Lobay Invest, qui fait aujourd'hui de la recherche. la recherche. Voilà.
Monsieur le ministre, chaque régime lie sa chute à la tentative d'exploitation du pétrole centrafricain au prétexte que la puissance coloniale en fait une chasse gardée. À quand finalement les premières gouttes du pétrole centrafricain?
Bien, ça c'est fait. Bon, moi, comme vous, j'écoute que c'est une chasse gardée. Mais nous disons, nous, aujourd'hui, qu'à la faveur un peu de tout ce qui se passe à travers le monde, notre pays est ouvert à tous les pays qui peuvent exploiter et qui peuvent demander travailler avec la personne africaine.
Monsieur le ministre Leopold Mboulefatrane, je vous remercie.
C'est moi de vous remercier.